Merci beaucoup, Sandrine. Je voudrais revenir sur plusieurs aspects, mais je note la conclusion générale que tu nous proposes, où on voit effectivement une tentative de réponse à la question qui est quand même au cœur de cette journée en termes de durabilité, et cette idée qu'il y a une forme de... je ne sais plus le terme exact que tu as retenu, hein, mais de pluralisation finalement des points de vue, une sorte d'ouverture du jeu. Avec toute une analyse au cœur... Ah, super. Ça va aller beaucoup mieux. Merci. Une analyse au cœur de ton propos du... Moi, j'ai beaucoup apprécié cette discussion des effets de concurrence qui existent entre l'offre de participation et la représentation via un certain nombre de corps intermédiaires dans une logique néo-corporative qui marque notre action publique à la française. Et on pourrait ajouter sans doute également qu'il y a des effets de concurrence au sein même de l'espace de la concertation entre différents dispositifs et une logique de spécialisation qui fait qu'il y a une forme de lutte concurrentielle entre promoteurs de différents dispositifs, la conférence des citoyens versus le débat public ou autre, hein, donc sans doute un enjeu à penser l'articulation entre ces différentes formes de concertation. Et des effets de concurrence aussi, et tu as bien souligné la nécessité de ne pas appréhender la société civile organisée comme un tout homogène, hein. Mais on voit bien, je pense, comment la nécessité de s'imposer comme un interlocuteur légitime pour les pouvoirs publics dans ces arènes de l'administration consultative va être un enjeu face auquel les plus petites structures, qui n'ont pas nécessairement de ressources d'expertise évidentes, mais qui surtout n'ont pas forcément une représentativité à mettre en avant évidente, peuvent être mises en difficulté. Donc, moi je voudrais reprendre la question de savoir dans quelle mesure le développement de ces dispositifs de concertation constitue une opportunité. C'était l'idée aussi, hein, le terme que vous utilisez dans votre papier, Gilles, c'est une fenêtre d'opportunité pour un certain nombre d'organisations. Est-ce que c'est vraiment une opportunité? Est-ce que ça ne peut pas être une contrainte? On voit bien dans ton propos, Sandrine, que pour certaines de ces associations, ce n'est pas nécessairement aussi évident que cela. Les organisations, la société civile, organisée, mais on peut aussi se poser la question de savoir quels sont les effets du développement de cette offre de participation sur l'action publique plus sauvage que tu évoquais au départ. Est-ce que la participation va quelque part être en capacité d'offrir un cadre à ces formes de participation plus directe, à l'expression de points de vue éventuellement plus radicaux pour s'exprimer, ou est-ce que ça ne peut pas être également une contrainte en obligeant à mobiliser du temps, de l'énergie, des ressources? Et il y a, de la même manière qu'il y a un coût aujourd'hui, je pense, pour toute une série d'acteurs, y compris surtout les opérateurs, à ne pas concerter ou à ne pas mettre en scène le fait qu'on concerte, il y a presque une logique d'évitement du blâme, hein, qui fait qu'on ne sait pas très bien ce que ça rapporte, mais on sait que ça peut coûter cher de ne pas pouvoir dire qu'on l'a fait. Donc il y a un peu la même contrainte qui pèse sur les organisations associatives, et c'est pas toujours évident d'assumer la position qu'assume par exemple PMO, qui fait face à des critiques en termes « mais vous êtes un ennemi de la démocratie, vous empêchez le débat de se tenir ». Donc la question que ça pose, me semble-t-il, c'est qu'il faut réfléchir à la question de savoir si le déploiement des dispositifs de concertation ne peut pas avoir des effets de disqualification de certaines formes d'action collective, d'expression de certains point de vue, de certaines visions, visions du monde qui peuvent s'exprimer. Je pense qu'il y a un certain nombre de signaux d'alerte qui nous laissent penser qu'il peut y avoir ce type d'effet. Ne serait-ce que l'effet en termes de... je cite régulièrement cette formule consistant à dire que le contraire de libre, c'est occupé. Et on a une logique d'occupation, de grain à moudre donné à des associations qui peuvent être mises dans la situation où leur travail est compliqué et rendu plus difficile, plus long, plus coûteux du fait éventuellement de l'existence de ce type d'arène où on est obligé d'aller éventuellement mettre un pied tout en sachant que c'est pas là que les choses vont se jouer. Bon. Donc c'était la première série d'observations que je voulais faire. La deuxième observation que je voulais faire, c'est qu'il faut... donc moi je souscris tout à fait à cette idée qu'il y a une réticence plus ou moins grande, et plus ou moins grande aussi selon les dispositifs des acteurs, réticence des acteurs organisés de la société civile à l'égard de l'offre de participation. Et je pense qu'il faut néanmoins rappeler qu'une partie d'entre eux, au moins, a largement contribué à la construire, cette offre. Puisque on sait que dans le lien entre association et concertation, avec tout le caractère flou que le terme d'association revêt, le mouvement associatif dans le domaine de l'environnement a énormément contribué à l'occasion de luttes et de mobilisations à arracher quelque part, souvent en termes de concessions, à défaut de décisions plus substantielles sur la redéfinition du programme électronucléaire, sur la mobilisation autour du parc de la Vanoise ou autre. C'est souvent en termes de concessions procédurales à l'issue de conflits et de mobilisations que de nouvelles procédures de concertation ont été mises en place. Et c'est d'ailleurs ce qui permet de comprendre le caractère un peu paradoxal du fait que d'un côté, on a le sentiment qu'il y a une demande sociale de participation, de plus ne pas concerter, etc. Et pour ceux, j'imagine que parmi vous, certains ont déjà été en posture d'observer, voire de conduire des dispositifs de concertation, la grosse difficulté, c'est de trouver un public, le fidéliser, et il y a de contradiction entre cette idée qu'il y aurait une demande sociale, mais quand on veut concerter, c'est toujours un vrai défi que de trouver le public. Et cette contradiction, elle se résout quand on essaie de voir effectivement qui sont les acteurs mobilisés derrière la demande sociale de participation. Et là, on s'aperçoit qu'on a donc des concessions à l'issue de conflits, mais on a aussi toute une série de croisés de la démocratie participative ou d'entrepreneurs de cause ou de militants de la concertation, on peut les appeler selon les héritages théoriques comme on souhaite. Mais je pense qu'il y a aussi le rôle de cette dimension-là du rapport entre association, entre concertation pardon, et durabilité, sur lequel je sais que tu as eu aussi l'occasion de réfléchir, donc peut-être que tu pourrais y revenir, Sandrine. Alors, ensuite, il y avait juste un dernier point sur lequel je voulais aussi réagir. Comment dire ça ? Cette idée... quelque part que les dispositifs de concertation constituent déjà une réponse à une crise d'une certaine forme de représentation par les corps intermédiaires. Il me semble que ce qui est très frappant, c'est que ce discours vaut pour les corps intermédiaires, il vaut aussi pour la démocratie représentative classique, pour les élus. Il vaut aussi pour le champ de l'expertise, un rapport beaucoup plus distancié à la science. Et c'est cette lecture qui conduit toute une série d'auteurs dans des essais récents autour de justement la démocratie écologique, globale, mondiale, etc., à partir du coup d'un diagnostic très critique vis-à-vis du fonctionnement de la représentation politique aujourd'hui, dans le double champ d'ailleurs politique, scientifique, de démocratie, idéologique, etc. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous raconter, dans ma tête ça l'est en tout cas. C'est l'idée qu'au fond, si on va jusqu'au bout de ce diagnostic, la solution serait le tirage au sort, le modèle d'une conférence de citoyens, qui serait, chez toute une série d'auteurs, il y a quand même cette idée qu'en matière de développement durable, pour faire face à tous ces enjeux de transversalité, de prise en compte du temps long, de l'incertitude, et en finir avec les défauts de toutes les formes de représentation existantes, eh bien, tirons au sort, construisant des représentants des citoyens ordinaires, et ce serait, il y a cette idée un peu moins explicite selon les auteurs, selon laquelle, du coup, c'est la conférence des citoyens qui serait le modèle le plus adéquat pour faire du débat public en matière de développement durable. Donc c'est sur ce postulat qu'on voit circuler dans une série d'arènes, autant chez les acteurs que chez les chercheurs, sur lequel je voulais aussi avoir ton avis.